Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, Didier Blé.
Merci de nous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information. L'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne a, au cours d'une conférence de presse samedi, fait le bilan de ses activités, des activités également de son association, mais aussi d'un regard sur la gouvernance 2023 de l'État ivoirien. Vous entendrez sa présidente dans cette édition. La 12e semaine de la sécurité routière a été lancée officiellement hier lundi à San Pedro. Objectif, sensibiliser la population en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, éviter les accidents et autres débordements. Hors de chez nous, situation sociopolitique au Sénégal. Après l'annonce du report de la présidentielle du 25 février prochain, le Parlement sénégalais a autorisé hier par un vote à l'Assemblée nationale la prolongation du mandat du président Macky Sall. Ce vote s'est déroulé après l'évacuation des députés de l'opposition par la gendarmerie. Nous terminerons cette édition avec le docteur Constant Joël Yoboué, invité de la rédaction ce jour. Le secrétaire général de l'ONG lutte contre la corruption, Social Justice, intervient sur l'IPC, l'indice de perception de la corruption 2023, publié récemment. Le contenu de cet entretien, donc au cours de cette édition, entretien mené par Constant Maïlé. Merci de nous retrouver et bienvenue. L'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, a au cours d'une conférence de presse samedi dernier fait le bilan des activités de son ONG, mais également celui de la gouvernance 2023 de l'État ivoirien. Quatre points étaient à l'ordre du jour, les précisions avec la présidente de la dite ONG, Pulchéri Edith Bali.
Par rapport au plan politique, la recommandation majeure que nous avons faite, c'est d'organiser un dialogue politique inclusif. Il va partir du bilan des 5 premiers dialogues qui ont été organisés, afin qu'on trouve de réelles solutions et pour la réconciliation qui, pour nous, n'est pas encore effective, et pour des élections apaisées et transparente en 2025. Pour le côté socio-économique, ce qui est prédominant, c'est la cherté de la vie et les difficultés d'accès d'emploi pour les jeunes. Il y a beaucoup trop de choses qui accroissent la cherté de la vie, augmentation du carburant, augmentation de l'électricité, augmentation des péages, augmentation de tout. L'annexe fiscale 2024 est venue aggraver la situation et la dernière décision impopulaire, c'est la suspension de l'exportation des produits vivrier. Mais pour faire face à cette cherté de la vie, ce que nous avons proposé, c'était qu'on rende l'énergie solaire accessible. Parce que l'énergie électrique est trop chère, il faut qu'on rende l'énergie solaire accessible. La deuxième chose, sur tous les salaires, il y a une taxe qu'on appelle la contribution nationale qui était un effort de guerre. Il y a longtemps, nous ne sommes plus en guerre et cette taxe est trop élevée. Si on la supprime, ça va induire automatiquement une augmentation de salaire. La troisième solution, c'est qu'avant de prendre des décisions qui touchent au pouvoir d'achat des populations, il faut quand même consulter les acteurs du secteur. Parce que c'est ça le gros problème.
Vous écoutiez à l'instant la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulchéri Balé. Solvabilité de la Côte d'Ivoire par rapport à son endettement, l'agence de notation financière Fitch reconduit la note du pays à BB- pour cette année 2024. Une note, explique l'économiste Faustin Onozon, qui est la preuve que la Côte d'Ivoire, avec ses fortes perspectives de croissance, a la capacité donc de faire face à ses engagements financiers. Faustin Onozon a été joint par Jean-Claude Comier.
Bon, la solvabilité, hein, c'est exactement comme si vous gérez une entreprise. Et lorsque vous avez, par exemple, le niveau de vos dettes qui sont largement supérieurs à vos recettes, il va sans dire que vous êtes dans une situation qui n'est pas stable. Et bien au contraire, une situation qui est tout à fait démesurée. C'est que vous ne pouvez pas faire face à vos engagements. Et un État, il faut le mettre aussi dans la même condition qu'une entreprise. Est-ce que l'État peut faire face à ses engagements? Est-ce que l'État a les capacités réelles pour pouvoir soutenir, par exemple, sa masse monétaire en circulation? Est-ce que l'État a les devises nécessaires pour gérer au mieux ses relations financières avec l'étranger? Et c'est tout ça qui fait que on va vers une agence de notation financière pour faire des calculs beaucoup plus appropriés.
Alors justement, l'agence Fitch Rating a reconduit, hein, pour l'année 2024 la note BB- assortie d'une perspective stable en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Que comprendre par cette notation?
Lorsqu'on parle des notes BB-, on veut mettre là en exergue la solvabilité du pays. Il n'est pas en défaut de paiement. il a une gestion économique et financière qui est tout à fait cohérente. Et c'est un pays qui peut faire face à ses engagements vis-à-vis de l'étranger. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer dans cette situation de paiement. La situation de paiement, c'est quoi? C'est quand vous n'avez plus les devises nécessaires pour pouvoir financer vos opérations d'importation. Or, la Côte d'Ivoire n'est pas à ce stade-là.
Voilà, c'était donc Faustin Onozon. Il est économiste, il était avec Jean-Claude Comé, parlant cette fois de modernisation de l'État civil ivoirien. L'ONECI renforce les capacités d'une soixantaine d'acteurs issus des centres d'État civil de 3 communes d'Abidjan et 17 circonscriptions d'État civil de l'intérieur du pays. Ce séminaire qui porte sur l'utilisation du nouvel outil de gestion des faits d'État civil se tient donc du 5 au 8 février 2024 au Centre de formation et de renforcement de capacité de l'ONECI à Abidjan-Cocody. Jean-Claude Mabéa.
Représentant le directeur général de l'ONECI, la sous-directrice en charge de l'État civil a situé l'objet de ce séminaire de formation des agents de l'État civil ivoirien.
C'est un nouveau outil d'enregistrement des faits d'État civil qui a été conçu par notre partenaire, un opérateur technique. L'ONECI en charge la mise en œuvre de cette application-là. Et nous avons pour mission de moderniser l'État civil et donc de déployer ce logiciel dans l'ensemble des centres d'État civil de la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, nous recevons une première vague d'apprenants que nous allons former.
Mais avant, le chef du dit projet a présenté les spécificités et la fonctionnalité de ce logiciel. AFESI.
C'est un logiciel qui a plusieurs fonctionnalités. Donc une fonctionnalité qui concerne la saisie des actes. Avec ce logiciel qui est à double version, une version mobile qui est utilisée par les sages-femmes et les agents de collecte communautaire dans les villages, auront des smartphones. Et quand il y a une naissance dans un centre de santé avec le smartphone, l'information est captée. Et l'information arrive systématiquement dans le centre d'état civil rattaché à ce centre de santé. Ce qui est aussi important, c'est qu'un enfant ne peut pas être déclaré deux fois. Donc ça sécurise notre système d'état civil. Ça permet également de lutter contre la fraude sur l'état civil.
D'où cet appel de la sous-directrice de l'ONECI en charge de l'état civil. Quadio Biot Flora.
Nous remettons des kits à ces auditeurs et nous leur demandons de prendre grand soin de ces kits de formation-là.
À partir de lundi prochain, le logiciel CityWeb sera fonctionnel et donc opérationnel dans les états civils qui ont bénéficié de cette formation.
La 12e semaine de la sécurité routière a été officiellement lancée le lundi 5 février 2024 à San Pedro. L'objectif de cette semaine, sensibiliser la population en cette période de Cannes pour éviter les accidents de la circulation liés à l'euphorie de la célébration des victoires des éléphants de Côte d'Ivoire sur les routes. Les détails avec vous, Kofi Benson.
Cette 12e semaine de la sécurité routière avec pour thème cohabitation des usagers de la route et protection des populations pourrait se résumer en un concept: l'humilité sur la route, selon Ake Innocent, représentant le directeur régional des transports à San Pedro.
La Cannes, c'est une fête pour nous tous. Mais une fête, c'est dans la joie et la ferveur, et non dans la tristesse. Je demande qu'il y ait l'humilité sur nos routes. Nous empruntons tous la même voie, piétons comme automobilistes et cyclistes. Donc nous devons nous comporter bien sur nos voies, pour ne pas qu'il y ait des accidents.
Pour le commissaire de police, Cissé Adama de la cellule opérationnelle, il faut poursuivre la sensibilisation pour préserver des vies.
Avec la Cannes, nous avons noté dans la ferveur certains comportements de nos populations qui ont tendance à occuper les voies. Et donc, cette situation crée des cas d'accident que nous disons regrettables. Nous allons davantage sensibiliser les populations afin de préserver les vies qui nous sont chères.
Après la victoire des éléphants face au Mali, de nombreux cas d'accident de la circulation ont été constatés et l'on peut éviter cela, selon Guédé Ida Eleonore, présidente de l'ONG Avir, agir pour protéger des vies sur la route.
Quand on est trop content et qu'on prend des risques inutiles, ça conduit à la mort. L'alcool fait partie des risques inutiles. Le samedi, dans la joie, nous avons déploré plusieurs cas d'accident. Au volant, ils ont fait des vitesses excessives. Certains se sont levés même sur des motos. Ce que je voudrais donner comme conseil, c'est de ne pas prendre de risques inutiles.
Évitez donc le plus possible les déplacements motorisés après la victoire des éléphants. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Merci à vous, Kofi Benson. Les pensionnaires du centre d'observation, les mineurs de Boaké, vivent avec intérêt, vraiment beaucoup d'intérêt, la 34e édition de la Cannes. Fervents supporters des éléphants, ils expriment leur soutien au pachyderme par la fabrication d'objets aux couleurs nationales. Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké, a fait une incursion dans ce milieu carcéral à l'occasion d'une cérémonie de remise de vivres et de non-vivres. Son reportage.
S'ils sont certes privés de liberté, en revanche, ils bénéficient de certains droits, dont le droit à l'information. Ainsi, 57 pensionnaires du centre d'observation des mineurs de Boaké suivent à travers un poste téléviseur les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bien plus, les pensionnaires du centre d'observation des mineurs de Boaké affichent leur patriotisme et leur soutien au pachyderme par la fabrication d'objets aux couleurs nationales. Kwasi Léa, directrice de l'établissement.
Nous ne sommes pas restés en marge de la CAN. La CAN, c'est dehors, mais la CAN, c'est dans notre cœur. La CAN à Boaké, c'est aussi chez nous. Et c'est pourquoi vous voyez ces bouquets de fleurs avec les couleurs du drapeau ivoirien. Le patriotisme et le civisme, l'amour pour son pays, cela se matérialise par la fabrication de la confection de ces bouquets de fleurs à partie des balais, ces balais qui sont ornés aux couleurs du drapeau ivoirien, pour dire que la CAN aussi, c'est comme de Boaké. Pour dire aussi qu'on peut être privé de liberté et puis participer aux bonnes choses de son pays.
Au cours d'une cérémonie de dons de vivres et de non-vivres, le ministre Sidi Tiémoko Touré a rassuré les pensionnaires.
La société ivoirienne ne peut pas vous laisser en bord de chemin, parce que vous êtes tous des enfants de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des enfants du président Alassane Ouattara.
Le centre d'observation des mineurs de Boaké a pour mission, entre autres, de faciliter l'insertion des pensionnaires et de prévenir la récidive. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Hors de chez nous à présent, intéressons-nous à la situation sociopolitique au Sénégal. Après l'annonce du report de la présidentielle du 25 février prochain, le Parlement sénégalais a autorisé hier, par un vote à l'Assemblée nationale, la prolongation du mandat du président Macky Sall. Mais il faut le souligner, ce vote s'est déroulé après l'évacuation des députés de l'opposition par la gendarmerie, nous explique Mamadou Thior, journaliste analyste politique sénégalais, qui a été joint à Dakar par Jean-Claude Comet.
Les choses sont allées tellement vite parce que aussitôt annoncé samedi, le lundi, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi qui émane d'un parti censé être de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais qui était au pouvoir de 2000 à 2012. Mais ce parti n'a que 24 députés. Il a fallu que les 80 députés du président Macky Sall le soutiennent pour avoir les trois quarts du Parlement, c'est-à-dire 104 députés, pour que cette loi la passe. Mais ce qui s'est passé ce lundi aussi, c'est une loi qui a été passée au forceps parce que l'opposition a bloqué les travaux jusqu'à presque 22 heures et il a fallu que les gendarmes investissent l'intérieur du Parlement pour faire sortir manu militari les députés de l'opposition. Et c'est comme ça que cette loi-là a été adoptée.
Après donc ce vote-là, comment la classe politique réagit?
Cette loi-là, les 20 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, beaucoup ont déjà annoncé qu'ils vont l'attaquer et même les députés de l'opposition ont annoncé qu'ils vont l'attaquer. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. À partir du 2 avril, le président Macky Sall n'aura ni la légalité ni la légitimité parce que simplement il est passé par une Assemblée nationale pour se faire augmenter 10 mois encore dans son mandat parce qu'il termine son mandat actuel le 2 avril 2021.
Sur la situation sociopolitique au Sénégal, vous écoutiez à l'instant Mamadou Thior, il est journaliste et analyste politique sénégalais, interrogé par Jean-Claude Comet. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction. Constant Maïdé reçoit pour vous le secrétaire général de l'ONG Lutte contre la corruption, Social Justice, Dr Constant Joël Yoboué. Ils se sont entretenus sur l'IPC, l'indice de perception de la corruption 2023, publié récemment. Suivons-les dans cet entretien.
Docteur Joël Constant Yoboué, bonjour.
Bonjour, monsieur Maillé.
C'est à d'abord de nous expliquer, pour comprendre ce que c'est que l'IPC, l'indice de perception de la corruption d'entrée de jeu.
L'IPC, en français, c'est l'indice de perception de la corruption. Et l'IPC est un outil d'évaluation du niveau de la corruption dans chaque pays. Et pour comprendre l'IPC, nous partons de la vision du TIAI, TIAI c'est Transparence Internationale. Et cette vision-là, c'est d'avoir un monde où le gouvernement, le milieu des affaires, la société civile et la vie des citoyens au quotidien sont exemptes de corruption. L'IPC, en gros, c'est un indice agrégé de 13 sources de données, comme par exemple la transparence, l'intégrité, la redevabilité, la justice sociale, la démocratie. Et à la suite, une note est donnée. À la fin, il y a une formule agrégée qui est générée qui permet de donner des notes sur une échelle de 0 à 100.
Donc, cette échelle-là vous permet donc de faire un classement des pays selon cet indice.
Effectivement, il y a 180 pays et territoires qui sont classés.
La Côte d'Ivoire, à quel rang dans ce classement en cette année 2023?
Il faut dire que la Côte d'Ivoire a eu la note de 40 sur 100.
Est-ce que c'est une bonne note?
Effectivement, comparativement à la note de l'année passée, il y a une évolution. Tout ce qui est évolution est bon à prendre.
Le bon a été fait de combien de points?
De 3 points. Le bon a été fait de 3 points. Tout ce l'année passée, la Côte d'Ivoire était à 37 sur 100.
Mais l'idéal, c'est quoi? Comment est-ce que cela va se matérialiser à travers les notes?
Pour qu'on puisse s'en rendre compte qu'il y a un niveau évolué ou un moyen de corruption, il faudrait avoir la note de 60, le score de 60 sur 100. Vous voyez que la notion de bonne est relative ici, puisqu'on doit évoluer jusqu'à ce qu'on ait au moins les 60 sur 100 pour qu'au niveau du monde entier, on puisse s'en rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a un niveau, la corruption n'est pas aussi élevée.
Avec tous les efforts que le gouvernement fait pour faire face à la corruption, pour juguler ce phénomène-là, est-ce que tous ces efforts sont ressentis par rapport à sa justice en Côte d'Ivoire?
Effectivement, il faut dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts et dans cette dernière année, nous avons noté un corpus juridique et institutionnel qui a été mis en place par l'État. Il s'agit en gros de l'ordonnance relative à la prévention et la lutte contre la corruption et les blanchiments assimilés, la loi relative à la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme, et il y a des déclarations aussi du patrimoine de certains hauts fonctionnaires. Et au niveau institutionnel, il y a, comme vous le savez, la création de la haute autorité, la bonne gouvernance, il y a les mécanismes de signalement et de dénonciation qui espacent là. Et puis, il y a la création du pôle pénal économique et financier.
Apparemment, toutes ces structures, ça n'a pas suffi parce que la Côte d'Ivoire n'a fait qu'un bond de 3 points.
La corruption, c'est un comportement. C'est culturel. Il faut aussi dire que ça évolue. C'est sur la base de la note, c'est encouragé. Encourageant aussi. Nous faisons croire que si l'année prochaine encore nous maintenons ces acquis-là et que nous prenons les dispositions de déclarations des patrimoines à publier, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, certaines dispositions comme la mise en place de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, la mise en place du système national d'intégrité, tout ça. Ça va aussi donner des notes en plus encore à la Côte d'Ivoire qui va lui permettre de pouvoir avoir de bons scores et baisser le niveau de corruption en Côte d'Ivoire.
Le score que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est, comme vous l'avez dit, au moins 60. Quel effort a fourni puisse avoir au moins ce score honorable de 60 sur 100?
Il faut maintenir ces acquis que nous avons déjà obtenus. Et quand nous travaillons avec le gouvernement, nous faisons des plaidoyers pour qu'il y ait aussi effectivement d'autres mesures additives à prendre. Comme je disais, c'est vrai qu'on peut dénoncer, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore la loi qui protège les lanceurs d'alerte. Or, les lanceurs d'alerte jouent un rôle très important dans la lutte contre la corruption. Il y a ce qu'on appelle un registre des bénéficiaires effectifs qui n'est pas accessible, qui n'est pas aussi disponible. Mais en même temps, il faudrait que les choses, toutes ces politiques-là, soit pratique, soit réel pour les populations. Parce que souvent, c'est ça qui fait un peu la différence, c'est que tous ces tests sont pris, mais dans la pratique, on a l'impression que ces outils-là n'arrivent pas à travailler correctement sous l'influence du politique. Alors, je crois que tout le pays et toutes les populations vont voir que, effectivement, les comportements sont en train de changer en termes de lutte contre la corruption et que maintenant, la corruption est sanctionnée. On pense bien que cela va pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de faire des bons appréciables.
Quel pays au monde, dans ce monde-là, quels sont les deux premiers pays qui arrivent à avoir un bon score de lutte contre le phénomène de la corruption?
De l'Afrique, nous avons les pays scandinaves, Norvège, la Suède, qui sont toujours des pays qui pratiquent vraiment la bonne gouvernance et qui ont toujours de bons scores. En Afrique, nous avons les Seychelles et Comores qui ont des très bons scores au niveau de l'IPC. Donc, ce sont des exemples que nous pouvons copier. Ça veut dire que cela est possible.
Docteur Yewé Constant Joël, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci, M. Constant Maillet.
Voilà, c'était l'invité de la rédaction, Dr. Constant Joël Yewé, secrétaire général de l'ONG Lutte contre la corruption sociale justice, intervenant à l'instant sur l'IPC, l'indice de perception de la corruption 2023, au cours de l'invité de la rédaction. C'est la fin de ce 12 heures, le rappel des titres. L'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne a, au cours d'une conférence de presse samedi, fait le bilan des activités de l'ONG, mais également celui de la gouvernance 2023 de l'État ivoirien. Vous avez entendu sa présidente, Pulchérie Balé. La 12e semaine de la sécurité routière a été lancée officiellement lundi à San Pedro. L'objectif est de sensibiliser la population en cette période de canne, éviter les accidents et autres débordements. Situation sociopolitique au Sénégal. Après donc l'annonce du report de la présidentielle, le Parlement sénégalais a autorisé hier par un vote à l'Assemblée nationale la prolongation du mandat du président Macky Sall. Ce vote s'est déroulé après l'évacuation des députés de l'opposition par la gendarmerie. Excellente journée à tous et à toutes. Dans quelques instants, retrouvez à Ossipotin pour la revue de presse.
Bonjour. Notre revue de presse de ce jour va s'articuler autour de deux points clés, savoir la CAN 2023 qui connaîtra cette fin de semaine son apothéose en Côte d'Ivoire.